Tempo Classique sur RCN, Dominique Bréda.
Bonsoir à tous, soirée très corde frottée ce soir dans Tempo Classique avec mon invité, la violoncelliste Cyrielle Golin et Philippe Fosseux qui, à ma connaissance, ne joue pas d'instrument à cordes frottées mais qui vient nous présenter le prochain concert de la LMC le 11 mars avec le quatuor Modigliani. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Dominique.
Alors vous me confirmez, vous jouez pas d'instrument à cordes frottées ?
Non, je ne joue pas d'instrument à cordes frottées, ça n'est pas mon métier, je laisse ça aux musiciens professionnels.
D'accord, musiciens professionnels comme ceux du quatuor Modigliani qu'on va avoir le plaisir d'entendre lundi prochain, salle Poirel à 20h, vous pouvez nous présenter ce concert ?
Tout à fait, nous avons le plaisir de les accueillir à nouveau, c'est pas la première fois qu'ils viennent évidemment. Modigliani, ça doit être un des plus grands quatuors actuels mondiaux, quatuor de très très belle qualité, avec un son fantastique, avec une beauté de mouvement lent, une élégance et un raffinement qui... nous attachent au siège quand on les écoute. Voilà. Donc ils fêtent leur 20e anniversaire, ils terminent de fêter leur 20e anniversaire, puisque c'était juste à la fin de l'année l'année 23, et donc ils vont venir à Nancy pour nous proposer une soirée dont le programme a changé en dernière minute, puisque ce sera une soirée italienne.
Alors avec au programme...
Avec au programme Mozart, alors on dirait Mozart n'est pas italien, bien sûr, mais il s'agit d'un quatuor à cordes qui fait partie des six quatuors dits milanais, d'où le rapprochement. Ce sont les quatuors de jeunesse de Mozart, ce sont quasiment les premiers quatuors qu'il a écrit, ils ont choisi celui qui, à mon avis, est le plus pétillant et le plus agréable à écouter.
Et puis alors après,
on aura ensuite quelque chose qu'on n'entend pas souvent, qui est la sérénade italienne de Hugo Wolf, alors qui est une sérénade pour quatuor. Hugo Wolf n'est pas particulièrement connu pour ses quatuors, bien évidemment, c'était pas du tout son domaine, c'était un homme du lead.
Oui.
Il a fait là une pièce qui est une pièce relativement courte, qui est assez belle, assez agréable à écouter.
Et puis alors, après, deux vrais Italiens.
Et après, on a deux vrais Italiens, voilà. Puccini, d'abord, avec le célèbre Chrysanthemi, qui est un morceau qu'il a composé à la mort d'un de ses amis. Très, très belle pièce, très émouvante. Une pièce qu'on entend souvent. Et ensuite Giuseppe Verdi. Alors Verdi, on le connaît pour ses opéras d'abord et avant tout pas trop pour ses quatuors. En plus, il n'en a composé qu'un seul.
Ben oui.
Et il l'a composé par hasard, puisque les répétitions d'Aïda au théâtre de Naples à l'opéra de Naples étaient en retard. Donc il avait deux jours à passer sans rien faire. Et il s'est mis à la table de travail et il a fait un magnifique quatuor.
Voilà, comme quoi, un petit peu de temps libre
comme
et
quoi,
on peut faire des choses
extraordinaires. Pour ne pas perdre son temps, on peut faire de belles choses.
Voilà, très bien. Donc ça, c'est lundi prochain. Quatuor
Modigliani. C'est lundi prochain à 20h.
Voilà.
À la salle Poirel.
Oui, alors le dernier concert d'Adam Laloum, c'était quasi plein. Je suppose que là, ça doit être à peu près la même chose.
Alors ça va être quasiment la même chose. Il reste quelques places encore, mais on va boucler dans la semaine... parce que c'est vraiment un très très beau concert.
Ben oui, bien sûr. Eh ben on se retrouve lundi prochain, 11 mars, 20h, salle Poirel, quatuor Modigliani, programme Mozart, Wolf, Puccini et Verdi. Merci Philippe, bonne fin de soirée et à lundi prochain.
À lundi.
Au revoir.
Au revoir.
Tempo Classique sur RCN, Dominique Bréda.
Alors on va passer d'un quatuor à un autre, puisque mon invité, Cyrielle Golin, est la violoncelliste du quatuor à cordes Akos, mais elle a aussi, si j'ose dire, beaucoup d'autres cordes à son arc. Bonsoir Cyrielle.
Bonsoir Dominique, merci beaucoup de m'accueillir dans votre belle émission.
Ah ben ça me fait bien plaisir. Alors je suppose que les genres dont on a parlé, là, Mozart, Wolf, Puccini, Verdi, ça vous parle au niveau musique de chambre ?
Ça me parle, tout à fait. Je n'étais pas au courant de l'anecdote de Verdi. Et c'est vraiment impressionnant quand on sait que même Mozart s'est posé des questions pour composer des quatuors à cordes. Ouais. Souvent, ça donne du fil à retordre aux compositeurs. Alors, c'est assez impressionnant de se dire que Verdi a fait ça aussi rapidement
Voilà, on apprend plein de choses dans Tempo Classique, vous avez raison d'écouter. Mais je propose qu'on vous écoute déjà dans une pièce de Robert Schumann, Vanitas Vanitatum. C'était Vanitas Vanitatum, une des Fünfstücke de Robert Schumann, interprétée par mon invité de ce soir, Cyrielle Golin, accompagnée au piano par Antoine Mourlas. Alors, Cyrielle, on peut dire que vous êtes un pur produit du Conservatoire de Metz, dans lequel vous avez fait toutes vos études en CHAM. Expliquez-nous voir un petit peu tout
oui.
ça.
Alors, effectivement, cette expression de pur produit, j'avoue, elle est tout à fait adaptée. Donc,
c'est
effectivement,
la vôtre.
Oui, mais je ne vois pas comment expliquer autrement. Donc bon, effectivement, je viens de Metz, je passe dans une radio nancéenne, j'espère que ça ne froissera personne.
Ah ben, pour nous, c'est un pur plaisir.
C'est gentil. Donc effectivement, j'ai commencé très tôt les CHAM, et je trouve que c'est vraiment une...
Alors CHAM, ça veut dire classe
à horaire aménagée.
Musique.
Qu'on peut, musique, ça peut être aussi pour la danse, dès l'école primaire en fait. Et pour le coup, c'est un système que je trouve assez idéal, car les classes sont en général assez réduites. Le temps scolaire est plutôt compact, mais bien fait, on va dire. Et nous avons du temps pour se consacrer au conservatoire les après-midi. Donc ça permet d'avoir un emploi du temps assez équilibré entre l'apprentissage scolaire et la musique dès le plus jeune âge. Donc j'ai poursuivi au collège et au lycée avec un baccalauréat TMD. Et vraiment, ce système m'a convenu et m'a épanoui, en fait, vraiment du début à la fin, on peut le dire.
D'accord. Alors, après, vous rentrez au Conservatoire Régional de Paris, pour pour travailler la musique de chambre. Et là, vous commencez à découvrir un peu, pendant plusieurs années, différentes facettes du métier de musicien. C'est-à-dire que vous donnez des cours, vous faites des remplacements dans les orchestres, des tas d'autres choses, je suppose, aussi.
Oui, exactement. Alors, par ces classes à horaires aménagées, j'ai très vite été confrontée, entre guillemets, à la réalité du travail. J'ai voulu découvrir très tôt ce que c'était de travailler de façon professionnelle. Et en fait, j'ai eu mes premiers cachets, même avant ma majorité, en fait, quand j'étais encore au lycée. Parce que j'avais cette envie de savoir ce que ça voulait dire, ce que signifiait, en fait, être musicien professionnel. Donc, j'ai eu beaucoup de chance... déjà d'être formé par un professeur vraiment extraordinaire au conservatoire de Metz, je le souligne avant de passer à la suite, parce que je trouve que c'est absolument primordial d'avoir un professeur qui nous correspond. Il s'appelle Jean Adolphe, il enseigne toujours actuellement, et c'est quelqu'un qui, je trouve, donne une bonne éducation musicale et humaine. Je ne sais pas comment dire, mais il incite en fait vraiment les élèves à jouer ensemble, à faire des ensembles, à aimer en fait l'orchestre, toutes ces choses-là. Et je pense que cette passion pour la musique de chambre vient vraiment de l'éducation en fait que j'ai reçue au conservatoire dès mon plus jeune âge. J'ai aussi fait beaucoup de musique de chambre, j'ai commencé à faire du quatuor à cordes en étant adolescente. Et effectivement, en arrivant à Paris, au CRR, j'avais tout ce bagage que j'avais envie de développer. Mais quand on passe de classe à horaires aménagés avec plein de projets qui fleurissent partout à un conservatoire finalement qui n'a pas beaucoup de cours à proposer, j'avais besoin en fait de combler en fait un emploi du temps, on va dire. Je ne voulais pas juste, entre guillemets, aller en cours de violoncelle, de musique de chambre et terminer. Donc effectivement, j'ai commencé à faire des remplacements à l'Orchestre National de Lorraine. À l'époque, ça s'appelait encore comme ça.
Oui.
À donner des cours. À m'orienter dans divers projets et surtout à faire beaucoup de musique de chambre, parce que j'ai eu la chance de faire des rencontres assez incroyables à Paris. Et une des premières personnes que j'ai rencontrées d'ailleurs pour la musique de chambre est l'actuel premier violon de mon quatuor. Donc comme quoi, ça vaut le coup de faire des études et de s'expatrier un petit peu de sa Lorraine natale.
À propos d'expatriation, vous devenez vite une grande spécialiste des horaires de train. Parce que vous allez entrer en même temps, vous allez travailler, enfin suivre des cours à la Hochschule de Sarrebruck, une licence de musicologie à l'université de Metz, et en travaillant sur Paris avec le quatuor Isaïe. Il faut quand même bien s'organiser. Hein.
Oui, c'est une question d'organisation. Mais après, avec de la motivation et de la passion, surtout, vraiment tout est possible. Et j'ai adoré cette période parce que l'enseignement, d'une part, du quatuor Isaïe était vraiment. Quelque chose de très fort, de très fondateur, qui en fait, les outils que ces professeurs ont apportés me servent vraiment toujours à l'heure actuelle. Et je pense que c'est vraiment grâce à eux que j'ai très envie d'enseigner en ce moment. L'enseignement en Allemagne m'a aussi beaucoup épanouie, parce que j'ai eu la chance de travailler avec un grand soliste, mais qui est aussi un immense pédagogue, qui s'appelle Gustav Rivinius. C'est vraiment quelqu'un de très inspirant, de très simple, de très direct. Et j'ai beaucoup apprécié son enseignement, sa façon de faire fleurir en fait des violoncellistes qui viennent d'absolument partout. J'étais la seule Française, et pourtant Sarrebruck, c'est la frontière de la France, mais j'étais la seule petite Française dans cette classe. Et vraiment, j'ai mesuré plus tard ma chance d'avoir été reçue dans cette Hochschule, parce que c'est un professeur qui est très demandé et qui ne prend pas en fait systématiquement de nouveaux étudiants à chaque semestre. C'est vraiment en fonction des places disponibles. Donc là, je me suis dit que j'avais vraiment eu beaucoup de chance.
Et alors, voilà. qu'est-ce qu'on y fait dans ces Hochschule? La différence avec un conservatoire, c'est quoi?
À part
la langue.
Alors oui, il y a cet aspect de la langue qu'il faut vraiment apprendre en Allemagne. Vraiment, ne plaisante pas avec ça. Le niveau d'allemand doit être quand même suffisant. Selon certains professeurs, ça peut être plus ou moins souple, mais il y a beaucoup de cours théoriques à suivre, surtout dans la licence. Donc en allemand, ça s'appelle le bachelor, ça ne dure pas 3 ans comme en France, mais 4. Et il y a un gros bagage théorique avec évidemment de ce qu'on peut appeler du solfège, de l'harmonie, de l'organologie. Beaucoup de cours qui viennent s'associer à de l'orchestre de la musique de chambre, bien évidemment, mais c'est un cursus qui est très complet. et qui se fait vraiment sur quatre grosses années. Pour ma part, étant donné que je faisais aussi beaucoup de musique de chambre en France, j'ai passé donc la licence de musicologie en France pour aussi avoir un peu plus de temps et gérer cet emploi du temps finalement entre ces trains et ces deux pays. Voilà.
Donc vos études se sont terminées comme ça?
Oui, avec un master du coup, parce que j'ai vraiment voulu poursuivre. Parce que oui, ce que je tiens à dire, c'est que quand on trouve un professeur qui nous convient, c'est important de savoir faire son temps, parfois partir au bon moment, mais pour ma part, j'ai apprécié ces 6 ans avec Monsieur Rivinus. Voilà.
Eh bien écoutez, je propose qu'on vous écoute. Vous nous avez enregistré quelques petites pièces tout à l'heure avant de commencer l'émission. Trois petites pièces de Hans Werner Henze, qui est un compositeur allemand ou autrichien, je ne sais pas trop.
Allemand. Oui.
Voilà, ce sont des pièces qui datent de 1949 parce que vous aimez aussi cette musique du 20e, du 21e siècle. On en reparlera peut-être tout à l'heure.
Tout à fait.
Cyrielle en live. C'était mon invité, Cyrielle Golin, dans 3 extraits de la sérénade de Hans Werner Henze, que Cyrielle a accepté de nous interpréter en live. Alors, on va parler un petit peu de vos différentes activités professionnelles maintenant, qui tournent essentiellement autour de la musique de chambre.
Oui, tout à fait.
Et on va parler d'un premier CD que vous avez enregistré qui s'appelle « Un moment musical chez les Schumann ». Alors, on s'attend à entendre Robert Schumann, ce qui est le cas. On s'attend à entendre Clara Schumann, sa femme. Pas de Clara Schumann.
Pas de Clara.
Pas de Clara. En revanche, on va avoir 2 Schumann assez originaux, Camillo et Georges, qui sont 2 frères, et qui ne sont pas du tout de la famille de Robert, d'ailleurs.
C'est exact. Alors, ils sont aussi originaires de Saxe, mais aucun lien de parenté.
Alors, parlez-nous un peu de ces 2 frères.
Donc, pour l'élaboration de ce disque, effectivement, on a cherché du côté de Clara, on a un petit peu cherché à divers endroits. Mais ce qui nous est venu, donc avec Antoine Morlas, le pianiste avec lequel j'ai fait ce disque, c'est que nous voulions des œuvres originellement écrites pour violoncelle. Et si nous avions voulu ajouter Clara, il aurait fallu faire des transcriptions. Alors, il y en a qui existent déjà, qui sont déjà enregistrées, qui sont absolument magnifiques. Mais on voulait chercher d'un côté qui n'était pas encore tout à fait exploré. Mm-hmm. Les Filmstücke im Volkston, ce sont vraiment des pièces qui ont été directement écrites pour le violoncelle.
Ça, c'est une pièce de Robert, ça.
En ce qui concerne Robert, mm-hmm. exactement. Contrairement, en fait, aux Fantasiestücke, que nous ouais. jouons beaucoup au violoncelle, mais qui sont pour clarinette à la base. Oui. Voilà, on a voulu faire un peu les puristes.
C'est
et
bien.
Ce qui concerne cette fratrie, c'est Antoine, en faisant des recherches, qui est tombé d'abord sur Camillo, avec un enregistrement de Maria Kliegel, qui nous a beaucoup plu, qui avait enregistré en fait les deux sonates. Et ce style vraiment... extrêmement romantique de la fin du 19e siècle nous a beaucoup touchés parce que vraiment il est d'une pureté et une grande beauté d'écriture, énormément aussi de parties de piano. Camillo Schumann faisait du piano, de l'orgue, il donnait énormément de récitals, c'était un grand instrumentiste en fait de son époque. Et en cherchant plus loin, après être parti sur Camillo et l'avoir joué plusieurs fois, on s'est rendu compte qu'il avait un frère qui avait aussi écrit une seule sonate pour piano et violoncelle. Qui nous a beaucoup plu et qui nous a énormément marqué, parce qu'elle est dans un style qui n'a vraiment rien à voir avec celui de son frère. Mmh. Et pourtant, ils ont été élevés ensemble, si
oui,
je puis dire.
Ils n'ont pas beaucoup de différence, en fait.
Non, c'est ça. Alors, au niveau de l'activité professionnelle, Georg était plus impliqué dans des activités de diplomatie musicale, il dirigeait une grande chorale, il voyageait énormément, il a côtoyé beaucoup de compositeurs de différentes nationalités, et on sent dans sa musique qu'il a pu en fait percevoir des influences d'avant-garde, ce qui n'était pas du tout le cas de Camillo, et c'est vraiment deux esthétiques, deux beautés qui nous ont plu et qu'on avait envie de rassembler autour de Robert, voilà.
Eh bien écoutez, je propose qu'on écoute Camillo, avec le premier mouvement de sa première sonate, opus 59, un allegro moderato. Thank you. C'était le premier mouvement de la sonate opus 59 numéro 1 de Camillo Schumann, rien à voir avec Robert, mais sur le même disque qu'ont enregistré mon invité Cyrielle Golin et le pianiste Antoine Mourla. Alors en fait, la musique de chambre, on a bien compris, c'est votre passion, c'est votre cœur de métier. Vous avez toujours voulu en faire, vous en avez fait très tôt. Pourquoi vous avez fait ce choix? Qu'est-ce qui vous motive là-dedans?
Ce choix, c'est vraiment imposé. En fait, je me suis rendu compte que la musique de chambre prenait une place très importante dans ma vie. Donc j'ai commencé à faire du quatuor à cordes quand j'avais 16 ans. Ensuite, en entrant au Conservatoire de Paris, ça a été vraiment une activité principale, en fait. Ouais. J'ai rencontré beaucoup de personnes avec qui j'ai fait divers projets. J'ai fait pendant 6 ans du quatuor avec piano et c'est vraiment venu très naturellement. Et au final, je ne me suis jamais vraiment posé cette question parce que c'est ce que j'aimais le plus faire. Bien sûr, j'appréciais de temps en temps aller dans des orchestres, mais je ne voulais pas en faire mon cœur de métier. Je voulais que ce soit vraiment le plus possible consacré à la musique de chambre, quelles que soient les formations, en fait, car tout m'intéresse.
Oui, et puis on voit que vous fonctionnez avec différentes formations, justement. Alors, on va peut-être parler d'un second CD que vous avez enregistré et qui tourne autour des quatuors à 3 instruments. Alors, parlez-nous un petit peu de cette formation peu répandue.
Oui, alors le titre peut paraître évocateur. Donc, quatuor à 3 instruments, car il s'agit d'une formation pour piano 4 mains, violon et violoncelle. Mmh. Alors, on pourrait se dire, c'est un trio augmenté. Et en fait, pas tant que ça. On s'est rendu compte, par des recherches, alors toujours avec mon complice Antoine Mourlas, ce pianiste avec qui j'ai également enregistré ce second disque, on voulait mettre cette formation en valeur, car finalement elle était assez répandue au 19e siècle, elle s'est perdue par la suite. Certains compositeurs l'ont utilisée pour faire des créations de symphonies et d'autres pour écrire directement pour cette formation. Le piano 4 mains donc, était évidemment très très en vogue à cette époque. Mmh. Et puis, parfois, il pouvait y avoir un certain manque de coloration de cordes, notamment pour des œuvres symphoniques. Et alors, pour la petite anecdote, Mendelssohn a écrit sa première symphonie pour cette formation avant de la faire pour orchestre.
D'accord. Vous voyez qu'on apprend plein de choses ici. Incroyable, incroyable.
Et nous avons choisi de jouer Ruy Blas. Donc oui. Pour le coup, c'est vraiment une adaptation. Alors contrairement au disque consacré à Schumann, nous avons pris le parti de mettre en avant des transcriptions parce que c'est vraiment quelque chose qui est propre à cette formation. Mais aussi, nous avons découvert ce compositeur, donc Hermann Behrens, qui a écrit 4 Gesellschaft Quartette.
Mm-hmm. Donc ça veut dire quoi, Gesellschaft Quartette?
Ça peut se traduire par quatuor montain. Voilà, donc jouer plutôt dans le cadre de salon. Et c'est des œuvres vraiment spécialement écrites pour cette formation. Et quand on a vraiment en tête cette formation sublime qui est le trio à cordes, on a du mal à se dire ce que pourrait apporter en fait un piano 4 mains. Et en fait, au niveau de l'oreille, le piano prend vraiment une place beaucoup plus importante, car il y a 2 musiciens qui sont dessus, qui prennent 2 voix. Donc c'est vraiment... Nous, on l'a vu comme un quatuor où chaque musicien a sa partie instrumentale, même si 2 musiciens partagent un même instrument. Il y a un partage des voix qui est absolument énorme. Et donc, nous avons voulu enregistrer aussi d'une certaine façon pour peut-être pas choquer l'oreille, mais montrer en fait une différence d'écoute, parce que je pense que cette formation le réclame. Et puis il y a ces petites pièces de Hummel, alors pas le fameux qu'on connaît, mais Ferdinand Hummel, qui était harpiste au Philharmonique de Berlin. Voilà,
d'accord,
notamment.
Quoi, voilà, voilà. Alors, ces pièces, vous dites, c'est de la musique de salon, mais vous les avez enregistrées dans un temple.
Tout à fait. Alors,
qu'est-ce qu'il a de particulier, ce temple?
Ah, il a une esthétique qui nous touche beaucoup, qui nous paraît très intéressante. Et voilà, entre le choix des micros, le choix du lieu, le choix de l'ingénieur du son...
Choix du piano.
Choix du piano, oui. Ouais, comme, on fait comme on peut. choix des cordes, voilà, tout ça, c'est des choses qui sont vraiment étudiées à l'avance. Et puis, on ne laisse absolument rien au hasard dans nos disques avec Antoine. C'est-à-dire qu'on s'occupe du plan de montage, On va, voilà, parfois on peut être un peu pénible sur certaines choses, on va dire plutôt exigeant, parce que c'est plus ça que...
Oui.
Mais on a vraiment à cœur de faire au mieux, de prendre, de faire au mieux avec ce qu'on a, en fait. Et bah, parfois, il y a des petits défauts qu'on a laissés volontairement, parce que bah, finalement, voilà, il y a tellement de paramètres qui peuvent rentrer en compte, mais c'est un ensemble de plein de réflexions, et nous voyons vraiment la gravure de disque comme un exercice très vaste où il n'y a pas que la partie instrumentale où on va jouer et après s'en aller. Non, on va vraiment réfléchir du lieu jusqu'à le dernier patch qui sera sur le disque.
Très bien, alors on va écouter un extrait du Gesellschaft Quartett, l'Allegro Molto d'Hermann Behrens. Thank you. C'était un extrait du Gesellschaftsquartett d'Hermann Behrens dans l'interprétation de... alors là, il y a plein de monde, puisqu'ils étaient quatre pour trois instruments. Il y a Antoine Bourlaz, Marie Olivon, Hector Burgan et mon invité Cyrielle Golin.
RCN, Tempo Classique, Dominique Breda.
Alors Cyrielle, vous appartenez aussi à un quatuor à cordes qui s'appelle le quatuor Akos. Alors il est vrai que pour tout quatuor, il faut trouver un nom. Le vôtre est venu d'une manière un petit peu curieuse. Vous pouvez nous raconter tout ça ?
Oui, si vous le souhaitez.
Ah oui, oui, c'est toujours intéressant.
Oui, c'est exact. Alors l'appel du quatuor à cordes, ça c'est quelque chose, une fois que ça nous prend, c'est compliqué de dire non, en fait. Donc après 6 ans de quatuor avec piano, le violoniste donc, qui s'appelle Alexis Gomez, qui est toujours premier violon du quatuor à cause Tanguy Parizeau, donc qui était membre fondateur altiste, et moi-même, on a décidé d'aller chercher quelqu'un pour faire du quatuor à cordes. Et le contexte voulait que nous participions à un concours assez coté quand même, qui manquait de candidats. Et puis, un des membres du comité a demandé en fait à Alexis, bah, allez-y, participez. Et puis il a dit, bah, désolé, nous on fait du quatuor avec piano. Dit, ah bah c'est pas grave, faites du quatuor à cordes quand même.
Et puis, c'est pareil, c'est pareil. Des cordes. Hein.
Oui. Et puis à ce moment-là, en fait, notre pianiste s'orientait vers d'autres études. Donc c'était le moment pour nous aussi de se diriger vers autre chose. On avait envie de continuer ensemble. Donc on s'est dit, bon bah allez, on va faire ce concours quand même. Le choix du nom, on n'a pas eu beaucoup de temps pour le décider, on va dire. Mais en fait, la petite anecdote, c'est que notre violoniste faisait des concerts en Slovénie et que les programmateurs s'étaient trompés de nom. Donc au lieu de l'appeler Alexis, ils l'ont appelé Akos. Et tout le monde l'avait appelé après pour rigoler Akos dans tout le stage. On trouvait que ça sonnait bien, que ça faisait nom de quatuor. Et puis, ça fait aussi référence un peu à ces anciens quatuors qui portaient systématiquement le nom du premier violon. Et là, c'est d'une façon un petit peu détournée, un petit peu rigolote, parce que évidemment, on n'est plus du tout dans cette mouvance de premier violon qui décide. On est vraiment dans un débat démocratique à toute épreuve. Donc c'est comme ça qu'est né le quatuor à cause, en s'enfermant pendant 2 mois à préparer un concours et à adorer ça surtout.
Et donc du coup vous avez continué à travailler ensemble?
Oui.
Alors dans ces instruments à cordes, il y a évidemment les instruments qui sont importants et puis les archets.
Oui, les archets, ils sont tout de suite venus en fait dans notre parcours, on va dire. Car après ce concours qui était complètement... c'était de la folie de préparer ça. Évidemment qu'on ne pouvait pas aller très très loin en 2 mois de travail, mais ça a été 2 mois de travail intense et extrêmement formateur. Parce qu'en 2 mois, on a monté plus de 10 quatuors qui ont constitué déjà un fond de répertoire à exploiter de fond en comble.
Et vous avez été primé à ce concours?
Non.
Non.
Non, non, absolument pas.
Vous avez bien travaillé, c'est l'essentiel.
Oui, c'est ça. Hein, c'est vraiment ce travail qui nous a plu. Et ensuite, on a été invité à une conférence à Londres qui est spécialisée dans les archets historiques. C'est une conférence qui s'appelle l'archet révolutionnaire, qui parfois se donne, s'est donnée récemment à Paris, à Sarrebruck, je crois même en Belgique, ou je ne sais pas si c'est en cours. Enfin, en tout cas, dans l'Europe. On a eu l'occasion d'essayer à cette période des archets et ça a été pour nous une révélation. On s'est dit mais pourquoi on ne jouerait pas en fait la musique de Mozart, de Haydn avec des archets qui ont été conçus à cette époque pour les instruments de l'époque avec l'articulation qui était écrite en fait en fonction des possibilités de ces archets-là. Mmh. On se sentait vraiment beaucoup plus guidé dans nos choix musicaux et à partir de cette conférence, on a plus jamais quitté ces archets et c'est vraiment devenu notre base fondamentale de réflexion où nous avons toujours en fait mixé des programmes avec des archets différents en fonction des époques de composition des pièces.
Très bien, alors ouais, on va écouter le quatuor à cause dans un quatuor de Haydn, votre troisième CD, quatuor en sol majeur, opus 76 numéro 1, c'est l'Allegro Ma non troppo. Thank you. Voilà, c'était le quatuor en sol majeur de Joseph Haydn, quatuor dédié au comte R2D, c'est ça ?
C'est exact.
D'accord. C'était le quatuor à cosse, dont Cyrielle Golin, mon invité, est la violoncelliste. Alors Cyrielle, il nous reste très peu de temps, mais vous vous investissez dans d'autres projets, plutôt d'ordre sociétal. Il y a Demos, il y a la musique dans les hôpitaux, la musique en milieu carcéral, puis la musique dans l'enseignement dans les conservatoires.
Oui, la transmission me paraît essentielle, c'est quelque chose qui me tient à cœur, que j'aime beaucoup faire, donc je développe en fait cette partie un peu plus là dans cette période de carrière. Je trouve absolument fondamental de faire de la musique en dehors des salles de concert, qu'elle soit accessible à tous, parce que ça me paraît être juste fondamental et je me rends compte que j'adore enseigner.
D'accord, voilà. Au milieu carcéral, vous n'enseignez pas.
Non, alors bon, ça a été une expérience. Alors à l'hôpital d'enfants, ça dépend. Les échanges sont vraiment intéressants et en fonction de la durée de séjour de certains enfants, on sent que la musique fait beaucoup de bien, notamment à la mémoire. Ça c'est fou parce que je le teste vraiment de façon immédiate. C'est pas juste des petites études scientifiques qu'on peut lire. Non, je le vois dans ma propre expérience. Et certains enfants retiennent des choses, ça leur fait vraiment du bien et on sent l'utilité de la musique dans des situations extrêmement compliquées.
Et alors Demos ?
Demos, c'est un projet social qui vient de la Philharmonie de Paris et je suis en charge donc de 15 enfants que je mène pendant 3 ans, principalement par de l'apprentissage de la transmission orale. Et ces 15 enfants rejoignent un grand orchestre une fois par mois pour donner ensuite un concert une fois par an, et ce pendant un cycle de 3 ans.
D'accord, on rejoint un peu l'orchestre à l'école dont on parlait la semaine dernière avec mon invité Marie-Hélène François. Écoutez, il va être déjà l'heure de se quitter, malheureusement. Tout ça est passé encore très très vite. Alors, vos actualités à venir, les prochaines, dans la région ?
Les prochains concerts ? Oui, alors j'ai la chance d'avoir été invitée par le Conservatoire de Nancy pour jouer le trio, le deuxième trio et le huitième quatuor de Shostakovich, donc à l'auditorium du Conservatoire.
Avec des professeurs de la maison.
Avec des professeurs de la maison, le lundi 8 avril à 20h. Mmh. Ensuite, un peu plus loin dans la région, mais voilà, c'est à Thionville, le 26 mai, j'aurai la chance de jouer le Concerto d'Elgar, accompagné par l'Orchestre Philharmonique de Thionville et dirigé par Sébastien Beck.
Mon ami Sébastien Beck, oui.
Oui, le 26 mai à 15h, au théâtre.
Très bien. Et puis alors, il y a d'autres choses qui se passent un petit peu plus loin que chez nous, à Arc-Essenan, à Fort-Calquier, à Cussy-les-Forges, enfin bon.
Oui,
vous êtes bien occupé encore
Bâle,
dans les mois qui viennent.
Oui, pour mon plus grand plaisir.
Un projet de disque encore.
Oui, dans les années à venir, effectivement.
Bon. Ouais. Dans les annonces, simplement deux petites choses. Donc le 10 mars au château de Lunéville, encore un violoncelliste, François Salk, que vous connaissez peut-être.
Non, je n'ai pas cette chance.
Il donnera un concert en compagnie de la pianiste Claire-Marie Leguet. Voilà, écoutez Cyrielle, merci d'avoir passé cette heure avec nous. On était un peu entre collègues, puisque vous m'avez avoué que vous avez aussi animé des émissions de radio sur la musique classique.
Oui, de
façon
très modeste.
Mais c'était pas dans la région.
Oui.
Ah, on en est tous là. Hein. Voilà, et puis je rappelle le concert de l'ALMC ce lundi 11 mars à 20h, salle Porel avec le quatuor Modigliani. Merci à Pierre pour la technique, continuez bien à écouter RCN et à la semaine prochaine.